Le gang des hystériques.
Le gang.
Bim.
La question est que les femmes veulent se prendre en main elles-mêmes.
Je vais montrer justement des femmes noires dans leur pluralité, dans leur complexité.
La plupart d'entre vous le sentent.
Attendez-vous.
Ils savent qu'on ne peut empêcher les avortements
sur
des
clandestins.
Bonjour à toutes, à tous et aux autres et bienvenue sur Le Gang des Hystéries, émission que vous pouvez écouter sur PFM le troisième lundi de chaque mois à 22h30, puis le mardi à 14h, le mercredi à 1h30 et le samedi à 2h30 et 14h. Et vous pouvez retrouver le podcast sur le site de Micro Rebelle. Aujourd'hui, je suis accompagné de Touga.
Salut.
De Marin.
Salut.
Et de Lily.
Hello.
Et le thème d'aujourd'hui, ça sera la charge mentale, mais nous reviendrons là-dessus un peu plus tard. Pour l'heure, comme d'habitude, on commence avec l'agenda. Et ce 23 octobre, à la Maison des Jeunes Buisson, nous avons, Touga, une après-midi spéciale Halloween. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ?
Oui, c'est une après-midi qui s'appelle la fête de la trouille. Et c'est bien sûr sur les thématiques de Halloween. C'est organisé donc par la Maison des Jeunes Buisson à Lens, rue Léon Blum. Et donc c'est une après-midi en 2x2 heures où il y a beaucoup de stands de proposer, des animations, des spectacles. Et où Micro Rebelle proposera une animation radiophonique de l'horreur. Par contre, il faut s'inscrire parce que c'est place limitée et passe sanitaire, il me semble aussi. Donc pour ça, il faut appeler la Maison des Jeunes Buisson. Je n'ai pas le numéro en tête, mais vous trouvez facilement sur Internet. Je pense que c'est genre la limite pour s'inscrire.
Donc ne tardez pas si cela vous intéresse. Et Touga, on continue parce qu'il y a l'AG de Micro Rebelle le 30 octobre,
c'est
donc le samedi d'après.
Exactement, une semaine après. Donc le matin, l'AG de Micro Rebelle, ouverte à toutes et tous. Pareil, à la Maison des Jeunes Buisson, rue Léon Blum à Lens. Et ce sera de 10h à 12h30. Et donc c'est l'occasion de nous rencontrer, de rencontrer les adhérentes et adhérents de l'association, de voir un peu ce qu'on fait. Voilà.
Surtout que si vous pouvez pas ce mois-ci, c'est tous les mois en fait qu'il y a, ou un peu plus ou moins, il y a rendez-vous mensuel pour cet événement.
Exactement, on essaye de faire ça tous les derniers samedis de chaque mois, le matin, et donc à part décembre, sinon ce sera mensuel.
Ok, merci. Je vous rappelle après que le premier vendredi de chaque mois, donc ça arrivera le 5 novembre, il y a toujours le bar LGBT au local du planning familial. Donc je rappelle le principe, c'est une ambiance tranquille au local du planning familial, donc 45 rue François Gauthier à Lens, pour discuter de tout et de rien autour... C'était le petit moment ASMR de Touga. Merci Touga.
De rien.
Autour d'un jus de fruits, des petits biscuits et tout ça, pour discuter de tout et de rien dans une ambiance chaleureuse. Donc le 5 novembre à partir de 17h. Il y a aussi le 6 novembre la journée éduc-pop du LAG. Non.
Si. Je vois que tu me regardes et j'ai pas révisé, donc ne me regarde pas.
Donc vous aurez les informations bientôt sur cette journée de l'éducation populaire au LAG, qui est le lieu autogéré de Liévin.
C'est toute la journée, et c'est pareil, c'est un événement avec une jauge, donc il est conseillé de s'inscrire à contact@lelag.fr. Et donc c'est sur, pour parler d'organisation collective, d'éducation populaire, autour d'ateliers en plus ou moins grands groupes. Voilà, suite à déjà des temps de réflexion qui ont eu lieu avec l'intervention de Adeline de Lépinay qui avait eu lieu au LAG aussi dernièrement sur l'organisation collective.
Merci beaucoup Touga.
Il a fallu regarder Touga.
Ouais. Mais c'est toi qui m'en as parlé tout à l'heure.
Je me suis souvenu de la date.
C'est déjà bien. Je sais que c'est ce jour-là, mais qu'est-ce que c'est qui ne fait pas ? Et on termine avec, on vous en reparlera bien sûr sur la prochaine émission, mais entre le 19 et le 26 novembre, ça sera une semaine consacrée autour donc, de la date du 25 novembre, qui est la journée de lutte contre les violences faites aux femmes. Donc le planning a différentes actions avec les partenaires ou seuls dans le Pas-de-Calais en général, avec différents événements, dont le fameux collectif du 25 novembre qui fera comme d'habitude la journée spéciale pour les écoliers, et puis le soir...
C'est même un lycée, je crois, cette année. C'est auprès des lycéens.
D'accord.
Et après, spectacle, défilé de l'émancipation, et puis petite pièce de théâtre et débat. Mais il y a aussi le 19, peut-être que je peux déjà en parler.
J'ai dit du 19 voilà, au 26, ouais. Donc si tu as des renseignements, nous t'écoutons.
Voilà, pour le 19 novembre, il y a, pour celles et ceux qui seront intéressés, un karaoké féministe. Donc organisé par le groupe local du planning familial, mais sur la Cabalère, donc Béthune, Bruay, Lys, Artois...
Romane,
merci. Artois, Lys, Romane, d'ailleurs, dans ce sens-là, peut-être. Et donc ça se déroulera en partenariat avec Cirque en Cavale, donc sous les chapiteaux de Cirque en Cavale, un calonne-ricoire. Donc à partir de 19h, karaoké féministe. Voilà, c'est l'occasion de se rencontrer, de se découvrir et de faire réseau sur cette agglomération. Et puis de chanter à tue-tête des chansons chouettes.
Oh. Ça rime en tout, plus, ouais. Oh là là. On level up hein, dans cette émission, dis donc. fini l'agenda, on passe à l'agenda culturel. Et une fois n'est pas coutume, nous adorons regarder Netflix.
C'est vraiment problématique.
On adore éplucher toutes les séries qui nous intéressent. Et Lily, tu en avais deux à nous proposer. Et tout d'abord par Maid. C'est
ouais, bah, Marin aussi, je pense que c'est toi qui voulais parler de Maid, non? Qui m'a parlé de Maid? Non? Ah non, c'est Touga, pardon.
Ouais,
donc, non. Non, Marin m'a regardé avec des yeux de... Ah non, pas moi.
Mais c'est... effectivement, j'en avais parlé parce que je viens de la finir, en fait. Du coup, c'est encore
pas
dans
de spoil, on divulgage pas. Alors,
exactement. Et donc, justement, comme moi, j'ai horreur qu'on me raconte la fin, je ne la raconterai pas. Et puis, donc, comment parler d'une série sans trop en dire? Et j'ai découvert que Lily l'avait vue aussi. Voilà, c'est, on suit un bout de vie d'une jeune femme
américaine
qui a une petite fille, et on se rend compte très vite qu'elle elle est dans une situation assez précaire en termes de familial, de logement, de travail, voilà, et donc on va suivre un peu son... Et c'est assez subtil, en fait. Moi, je l'ai apprécié pour ça. Alors, il y a des moments un peu aussi angoissants, évidemment, parce qu'on est pris d'empathie pour cette personne et on se demande, non, encore une situation de merde,
ouais, dans
tout ce caca. Et puis, il y a quand même beaucoup de lueurs aussi, de lueurs assez ensoleillées. Donc c'est très agréable à voir, même si c'est parfois lourd. Et en même temps, ce qu'on se disait avec Lily, moi je trouve que c'est pas du tout cliché, ça va pas dans des trucs... tout en montrant quand même une réalité qui est parfois dure.
Ouais. C'est par certains côtés extrêmement violent, sans qu'il y ait... C'est, pour un public sensible, il n'y a pas de, je sais pas comment dire, de violence
c'est
brute,
plus
physique.
Psychologique.
Ouais, puis c'est une violence capitaliste aussi. Enfin, vraiment une situation économique, ce qu'implique la précarité.
Maid, ça veut dire femme de ménage en anglais.
Voilà, femme de ménage. Et donc la précarité avec sur les épaules le fait d'essayer de ne jamais montrer qu'on est précaire. C'est vraiment ça la subtilité. Et les personnages sont vraiment chouettes. Et puis, c'est de la violence capitaliste sur fond, évidemment, de toute façon, patriarcat, qui est extrêmement bien montré.
Oh bon.
Et à quel point les femmes, mais comme les hommes, sont victimes de ce patriarcat aussi, hein, tout en ayant des degrés d'oppression complètement différents, évidemment. Mais non, elle est époustouflante. L'actrice, elle est... Voilà,
moi, physiquement, elle m'a fait penser à Adèle Haenel.
Ouais, c'est vraiment complètement dans cette nouvelle mouvance d'actrices et d'acteurs. Hein. Je trouve qu'il y a un truc, c'est sur les 5-10 dernières années, hein, de gens avec des traits fins, bruns, un petit côté fragile, et même chez les hommes, hein, enfin, finalement, qu'on voit à l'intérieur. il y a un peu, puis il y a un peu ce truc sur Face. Finalement, on a les blancs se ressemblent tous entre eux. Enfin, elle ressemble à son compagnon. Elle ressemble. C'est vrai, je sais pas si ça t'a semblé. Tu vois, dans leur petit milieu, finalement, tout le monde avait l'air un peu de se ressembler en se regardant un peu en coin, mais avec la construction de la sororité. Moi, ce qui m'a plu, malgré les oppressions, où des fois, effectivement, c'est dérangeant, ça peut être compliqué à regarder quand on a eu une mauvaise journée, quand on galère aussi un peu, mais finalement, la construction de la sororité, elle était plutôt encourageante, quoi. Non, elle est vraiment chouette. Vraiment, ouais, c'est made.
Ça. Ouais. Ça questionne aussi sur le système d'aide institutionnelle, quoi. Alors là, c'est aux États-Unis, mais je me faisais la réflexion si une jeune femme dans sa situation en France se retrouvait en grande précarité, est-ce qu'il y aurait de la place dans tel ou tel endroit, est-ce qu'il y aurait besoin de remplir telle condition pour avoir le droit à ça, je me demandais du coup mais effectivement,
sans comme tu dis, gâcher, ça c'est un peu compliqué là, du coup je me dis, mais parce que je pense qu'effectivement, on peut voir à quel point le système social américain est défaillant. Enfin, je trouve que c'était plutôt flagrant. J'imagine que les situations, ça se produirait pas tout à fait de la même manière en France, je pense. Par contre, oui, sur les places d'urgence, il y a sûrement quelque chose à essayer de creuser. Parce que, oui, sans trop divulgâcher, on peut dire quand même en France, quand on a besoin de partir vite, c'est quand même pas gagné qu'on ait une place rapidement, une place satisfaisante. Et de manière sororale, ça se dit ça ? Sororale ?
Ouais. On peut l'inventer,
oh,
on le dit. Voilà. Voilà, donc on conseille. On est deux à le conseiller, voilà. Sur quatre.
Made, ouais. Allez-y. Et puis elle est courte, hein. Je sais plus combien il y a eu.
C'est 10 épisodes, ouais. Ouais, de 50 minutes. C'est voilà. Une mini-série et pour moi, c'est un très bon format.
Ouais, ça va. Et la deuxième, c'était Brand new Cherry Flavor. Bon, alors, pareil, mini-série. Par contre, pas du tout le même genre de série. C'est vraiment pour celles et ceux qui aiment le cinéma de genre, donc là c'est compliqué à définir parce que ça peut être ça pourrait être zombie mais pas tout à fait, ça peut être fantastique mais pas tout à fait, enfin voilà, c'est un ovni. Alors regardez-le, mais en tout cas moi ça m'a fait plaisir de regarder un truc un petit peu gore, un petit peu trash, avec des situations loufoques, mais pour une fois avec une approche de genre, une approche féministe. Finalement, c'est pas toujours les mêmes qui meurent. Il faut dire ce qui est. Voilà, dans n'importe quel film d'horreur, le plus souvent américain, mais pas que. Hein, je pense, voilà, c'est toujours la jeune actrice blonde qui meurt en premier. Et puis voilà, il y a.
C'est les personnes racisées.
Voilà, les personnes racisées, tout ça. Et bon, bah là, non, on n'est pas tout à fait dans ce genre-là. Et puis on a des femmes puissantes. Qui embrassent à la fois leur vengeance, leur force, et avec un aspect comique. Enfin, c'est un ovni, parce que ça peut être entre le film de sorcellerie, le film de zombies et le film comique, avec des situations complètement ubuesques. Mais voilà, pour ceux qui aiment ça, bah, c'est très chouette. En tout cas, moi, j'ai bien aimé.
Merci pour vos petits conseils. Avant d'attaquer notre thème du jour qui est la charge mentale, nous allons faire une petite pause musicale et je vais vous traduire les premières paroles de cette chanson pour comprendre pourquoi nous l'avons choisie. C'est surtout aussi parce qu'on a vu que c'était une chanson qui revenait souvent quand on parlait de ce thème-là. C'est les premières paroles traduites, c'est « Pourquoi porterais-je un tel poids sur mes épaules ? Pourquoi je t'aide toujours à porter tes rochers ? Tu te demandes pourquoi je porte un tel poids sur mes épaules et pourquoi je porte une telle charge ?» Ce sont les paroles traduites de la chanson « On My Shoulders » de The Do que nous allons écouter tout de suite et on se retrouve de suite après.
Yes.
Le gang des hystériques.
Le gang. Bim.
Si je veux finir le diag, je dois préparer les TDR. Ou alors, je lance une mission explo. Je vais contacter la mairie d'abord. Non, la FAP. Non, Emmaüs France. Ou alors, je rencontre la mairie, puis la SNCF. Puis, je rédige les TDR. Non, non, il me faut un salaire. Ou alors, je postule à MDM. Oui, mais si je pars, comment je fais? Qui garderait les enfants? Non, je vais chercher sur Madagascar. Oui, mais si je pars, comment je fais? Qu'est-ce que je vais faire des meubles? Comment j'organise tout ça, toute seule, avec les enfants? Ouais, je vais finir le diag et le présenter. Ou je réunis un CA. Ouais, je finis le diag et je réunis un CA. Oui, mais il me faut un salaire. Bon, ça va, on a toujours un toit sur la tête. Tout va bien. Oui, mais si ça va pas, comment je fais? Ouais, je vais faire une formation novlangue à Bioforce. Ouais, c'est bien ça. Je vais apprendre ce que je fais depuis 15 ans. Ouais, mais il nous faut une troisième chambre. Je peux pas continuer de dormir dans un cagibi. Ouais, j'aurais pas dû faire ça comme ça à Terre d'Errance. Ouais, j'aurais pas dû faire ça comme ça à la PSM. J'aurais pas dû faire ça comme ça au planning. J'aurais peut-être dû dire ça à ce moment-là. Ou j'aurais dû réagir à Grande Sainte. D'ailleurs, que sont devenus tous ces gens? Et si j'avais dit ça, peut-être que... Ou bien ça. Ouais, faut que je suive ma demande de mutation HLM. Je vais téléphoner au bailleur. Oui, mais il me faut un salaire. Je finis le diag et je rencontre la mairie. Ou je postule à MDM. Oui, mais si je pars, comment je fais? France Culture, bonjour, il est 7h. Allez, France Culture, bonjour, il est 7h. Oh, quel jour on est déjà? Bon allez, sac-toi. Alors je me lève, j'enjambe le minuscule palier qui sépare mon cagibi de ma salle de bain. Au passage, je lance un « Allez, debout les micrus !» Je rallume la radio dans la salle de bain. « Allez, allez, pyjama arrangé, brosse-toi les dents. Toi, brosse-toi les cheveux. Maman, ça sert à quoi l'école si on n'apprend rien? Mets tes chaussettes. Oh, j'ai oublié de prendre le rendez-vous chez le dermato. Oh merde, on a oublié ton homéopathie pour les molluscom. Maman, j'ai le nez bouché. Oh, j'ai oublié de racheter du stérimar. Hein, maman, ça sert à quoi l'école si on n'apprend rien? Ok, ok, popiette, je vais écrire encore à ton instit. Moi, je peux mettre des barrettes à paillettes? Oui, si tu t'en fous, si les copains se moquent. Fais-moi voir tes dents? Non, mais c'est quoi l'état de ces dents? T'as pas signé mon cahier du jour? T'as rempli les fiches que madame a données? Moi, j'ai plus de chaussettes. Elles sont toutes sur le Tancarville. Non, il n'y en a plus. Oh merde, tout est au sale. Je peux avoir des céréales croquettes de chat? Punaise, c'est quoi toutes ces chaussures en bas d'escalier? Maman, il n'y a plus que des céréales graines d'oiseaux. Ok, racheter des céréales croquettes de chat. Oh, puis on peut plus passer dans ce couloir. Bah oui, t'as laissé tous les sacs de vêtements à donner et les cartons pour la poubelle jaune. Ok, ok, je ferai ça tout à l'heure. Allez, dans la voiture! Voilà. Voilà un début de journée comme je les aime. Je sais que quand je rentrerai, j'aurai tout à faire dans un ordre précis et choisi, sans interruption. Débarrasser la table du petit déjeuner, faire la vaisselle, mettre en route une lessive, charger la voiture avec le recyclage, ranger les chaussures, prendre les rendez-vous médicaux, faire une liste de courses supermarché et pharmacie, réfléchir à comment ne pas laisser ma gamine déprimée, organiser le tout dans ma tête chronologiquement et dans un rapport temps et déplacement le plus efficace possible. Quand j'ouvrirai la porte, tout sera là. Rien n'aura bougé. Comme avant. Les chaussures, la vaisselle, les trucs qui traînent. Mon bordel. Et personne d'autre en mesure d'en prendre sa part. Planifier et réorganiser si quelque chose se glisse dans les rouages. Planifier, penser, organiser. Quand j'ouvrirai la porte, tout sera là. Mais maintenant, c'est normal. Il n'y a plus que moi. Aucune organisation à énoncer. Aucun effort à fournir pour répartir et répéter. Et puis, rien en plus. Seulement ce qui a trait aux enfants et à moi-même. Pish, 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 pish.
Super cocotte minute, merci beaucoup Lily. La charge mentale pour moi, c'est quand tu as tellement de choses à faire dans ta vie que tu dois tout noter, sinon tu oublies. Alors tu notes dans ton agenda papier, sur des post-it, et quand c'est super urgent, bah sur ta main. La charge mentale, c'est quand tu as tellement de choses à faire dans ta vie que tu es fatigué, que ton cerveau est saturé, que tu oublies même parfois de regarder dans ton agenda ce que tu ne dois pas oublier. Et donc, bah, tu rates un rendez-vous. Et ça ajoute du stress au stress de la charge mentale. La charge mentale, c'est être responsable de planifier, d'organiser et de mettre en place tel ou tel événement ayant trait à ton boulot, ta santé, ta famille, tes enfants si t'en as, tes loisirs, ta vie quotidienne, ta vie administrative, ta vie sociale, associative, militante, etc. C'est-à-dire réussir à jongler entre tous ces rendez-vous et toutes ces obligations en anticipant ce que chaque rendez-vous implique en termes de logistique, en faisant en sorte évidemment que tout rentre dans un emploi du temps bien huilé. Exemple, si je prends un rendez-vous professionnel à telle heure, je dois partir à temps pour aller chercher mon enfant à la crèche, puis me dépêcher de le déposer chez mes parents si je veux ensuite aller à une séance de sport, car son père rentre plus tard du boulot. Ce qui implique téléphoner à mes parents pour vérifier leur disponibilité, et encore j'ai de la chance d'avoir des parents qui parfois peuvent garder mon enfant, puis après le sport, retourner le chercher chez mes parents et rentrer chez moi. Bon, et encore j'ai de la chance, hein, parce que j'ai pas la charge domestique sur les épaules. À cela s'ajoute la charge mentale émotionnelle. Au-delà des rendez-vous à prendre, du style un ou une proche malade, un compagnon ou une compagne avec des soucis de travail ou de famille, ça veut dire prendre soin, écouter, rassurer. Et les enfants, ah là là, en plus de te pomper pas mal de temps, ça occupe ton esprit, ça te fatigue, ça épuise ton énergie pour le meilleur et pour le pire. Le plus compliqué dans tout cela, c'est quand les frontières entre chaque domaine de la vie se brouillent. Que tu dois penser à ta prochaine action associative révolutionnaire pendant le boulot, que tu dois penser à ton enfant malade pendant ton activité de poterie, que tu repousses à plus tard ta déclaration administrative trop importante, etc. De ce constat émane la question suivante. Aurais-je le mental moins chargé si nous étions plus à en être responsables ? Comment est-ce possible de diminuer sa charge mentale ? Alors bon, jusqu'ici, la seule option que je voyais, c'était de m'acheter un deuxième cerveau. Peut-être qu'il y a meilleure recommandation. Avant de peut-être répondre à ces questions, Flo, de ton côté, quelles sont les définitions de la charge mentale ?
Alors, dans tout ce que j'ai pu lire, il y a que l'année dernière, donc le 21 mai 2020, que l'expression charge mentale est rentrée pour la première fois dans le Petit Larousse illustré et est définie comme poids psychologique qui fait peser, et ça c'est important de souligner, plus particulièrement sur les femmes, la gestion des tâches domestiques et éducatives engendrant une fatigue physique et surtout psychique. Il y a d'autres définitions qui ont été données, comme par exemple Monique Eco, qui est une sociologue qui a défini en 1984 la charge mentale par le fait de devoir penser simultanément à des choses appartenant à deux mondes séparés physiquement, comme par exemple la maman au travail qui pense à ce qu'elle doit faire le soir en rentrant. Et je ne sais pas s'il y en a d'autres de petites définitions.
Ben, moi j'avais retenu celle de Nicole Bray qui travaille à l'université de Laval au Québec et qui définissait la charge mentale comme un travail de gestion, d'organisation et de planification qui est à la fois intangible, incontournable et constant et qui a pour objectif la satisfaction des besoins de chacun et la bonne marge de la résidence.
Oui, en discutant de cette définition-là avec le mot résidence, on se disait qu'on pouvait
le transposer.
Ouais, et ne pas considérer qu'il s'agit que du foyer, de la maison éventuellement, mais de dire ben voilà, du lieu d'occupation. Alors ça peut être le travail, ça peut être tout gâte, évoquer d'autres zones dans les loisirs, ça peut être d'autres secteurs. Voilà. Pas... Et, oui, depuis 2020, Flo, tu dis pour.
C'est rentré en 2020 dans le Larousse. Ouais, après, ouais. On en parle. On a vu de par les articles qu'on a recherchés que c'est aux alentours de 2016-2017 où ce mot a refait surface.
La plupart des références sont datées de ces années-là.
Mais tu disais aussi que ça remontait à bien avant tout ça.
Oui, alors c'est, on parle de l'effet, alors je vais forcément écorcher son nom, mais l'effet Zeigarnik. Il y a un K à la fin, je ne sais pas s'il se prononce que ou pas, mais bon, voilà, c'est une chercheuse russe, Bluma Zeigarnik, qui, dès le début du XXe siècle, hein, dans les années 20, constatait que les tâches qu'on n'a pas eu le temps de terminer, qui restent beaucoup plus en tête, enfin, restent davantage en tête que celles qu'on a pu achever, et qu'en fait, elles vont s'accumuler. Et vraiment mettre à mal tout le système. Donc en fait, s'il y a surcharge, ça peut vite devenir un cercle un cercle vicieux, un cercle infernal, il faut parfois un miracle pour stopper tout ça, quoi. Donc toutes les questions de Touga et ce qu'on peut dire en rebond à vos témoignages, ben, c'est ce qu'on va essayer de... Enfin, voilà, on va partager autour de ça.
Et on reste quoi?
Non, mais que peut-on dire? Mais j'avoue que non, mais j'avais un peu peur pour toi, Touga, en fait. J'étais en train d'être captivée et capturée par la situation d'étouffement que tu es en train de vivre. Je me dis, qu'est-ce qu'on fait?
Oui, je suis désolée,
elle est toujours là.
De tout, panique.
Elle est toujours là, tout va bien, on peut continuer.
C'est ça.
Moi, je rajouterais même que Aurélia Schneider, qui est une psychiatre et qui a fait une thèse qui s'appelle « La charge mentale des femmes et celle des hommes, mieux détectée pour prévenir le burn-out », a fait une liste en fait, de symptômes dont je pense toutes les personnes qui ont une charge mentale vont se reconnaître. Premièrement, le sentiment de manquer de temps, de devoir tout faire dans l'urgence, et ça, peu importe le type de charge mentale, bien sûr. Qu'il y a l'impression d'être toujours débordé, d'avoir mille et une choses à faire, faire des to-do list mais ne jamais arriver au bout, et se comparer aux autres et culpabiliser parce qu'on n'y arrive pas. Je trouve que c'est quand même bien résumé, peu importe de quel type de charge mentale on parle, et ça peut être très très large en tout cas, et toucher plein de domaines.
Et mener au burn-out, quoi. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a charge mentale qui peut être, on va dire, intrinsèque à... une activité, qu'elle soit professionnelle ou une vie domestique, y compris sur de la colocation ou autre, penser, organiser, planifier, c'est un peu l'essence même des êtres humains. J'ai envie de dire, enfin, après, je ne me suis pas penchée sur l'organisation sociale d'autres groupes d'animaux, on va rester là-dessus, pardon. Mais du coup, à partir de 2015 ou 2017, c'est redevenu un sujet. Moi, j'ai eu l'impression que c'était devenu un sujet parce qu'on pouvait pointer le fait que, dans certains cas, cette charge mentale pouvait être exacerbée. Donc, il y a certes, selon les conditions de travail, donc ça peut être... des burn-out et de nombreux burn-out dans une entreprise quand il y a vraiment un souci managérial, de la pression qui peut être exercée sur les salariés. Mais quand on en a reparlé, il me semblait que c'était dans la vague à la fois de dénonciation des violences qui sont faites aux femmes, notamment dans les couples au moins hétérosexuels. Je pense après la vague MeToo. Puis le Grenelle sur les violences, où on a eu la dessinatrice Emma, qui a aussi, avec une de ses BD très, comment dire, pédagogique, vulgarise un peu le propos, mais sur un exemple, c'est-à-dire la différence de charge mentale entre les hommes et les femmes d'un même couple hétéro. C'est ce qui a, j'ai eu l'impression, a été beaucoup abordé dans les médias, les plus grands médias, est plutôt défini. Et effectivement, le fait de constater que... Là, je pense que c'est... Moi, j'avais lu quelque chose de Julie Hepting, je ne dois pas très bien prononcer son nom non plus, mais qui a créé une application qui permet en fait de répertorier et de quantifier en fait les tâches et donc les charges, la charge mentale qui est associée, et qui disait que voilà, les hommes majoritairement surreprésentaient leurs tâches alors que les femmes les sous-estimaient puisqu'elles les accomplissaient automatiquement. Et donc là, dans ces exemples-là, il y avait ce focus sur le couple hétérosexuel, mais là autour du plateau, là du studio, on était On peut, je pense, discuter des différents angles d'approche, je pense, de la charge mentale. Moi, c'est ce que j'ai voulu faire passer dans mon texte. C'était à la fois quelque chose lié aux conditions, à la précarité, aux inquiétudes qu'on peut se faire, au travail, tout ça, sur la première partie de mon texte. Et puis après, une autre fois, sur clairement la charge domestique et, pour le coup, moi, le fait que je puisse me dire que ma charge mentale a baissé à partir du moment où j'ai pu décohabiter, puisque du coup j'avais vraiment la possibilité. J'arrête pas de dire du coup, c'est pénible. Hein. Non, pardon, je vais essayer.
Du coup, tu vas arrêter.
Voilà, je vais arrêter. J'ai senti la charge mentale baisser et donc être plus facilement gérable à partir du moment où j'ai été seule à organiser, planifier, et que j'organise et que je planifie pour moi-même et les enfants, et que ça reste dans un cadre précis avec des choses de l'ordre de la vie qui viennent interférer, quelque chose qui se passe à l'école ou un bobo, une maladie, un truc comme ça, mais pas une tierce personne qui peut rajouter une succession de choses à gérer sans les penser, les organiser lui-même.
Parce que là, tu disais que, en fait, tu, déjà, avoir des enfants à charge, il faut s'occuper de leur emploi du temps, mais que la personne qui vivait avec toi, en fait, tu avais une troisième personne à charge. Au final, tu devais penser un peu à... C'est qu'en fait, dans un couple hétérosexuel, souvent, la femme pense aussi à l'agenda du mari.
Non, et alors ça va, moi, ouais, alors peut-être, peut-être.
Alors,
mais
parfois, il y a l'agenda de ce que doit faire, et c'est les phrases qu'on revoit, que tu as cité la BD de Emma, et il y a le compte Instagram aussi qu'on dira plus tard, mais la petite vignette dessinatrice Emma qui parlait, c'est « il fallait demander ».
Il fallait demander, oui.
C'est en gros, la chef de projet, c'est la femme, et celui qui doit tout faire, c'est l'homme, quoi. Donc en fait, il faut penser pour lui...
Voilà ce qui montre bien la différence entre la charge domestique, la répartition des tâches domestiques et la charge mentale, qui n'est pas la même chose. C'est-à-dire qu'effectivement, il peut y avoir une vraie répartition des tâches, c'est-à-dire l'homme qui va faire la vaisselle, qui va faire le bain, tout ça. Mais pour le coup, là, Emma le disait, ça restait quand même à la femme de ce couple hétérosexuel à penser qu'il faille prendre le bain à telle heure, qu'il faille envisager tel ou tel plat le soir. Donc voilà, ça c'est penser, organiser, planifier, qui incombe plutôt aux femmes dans les couples hétérosexuels. Mais bon, après, moi, pour quelque chose de personnel, non, j'ai mis un point au fait que je n'organisais pas des choses pour lui et je ne planifiais pas pour lui. Mais c'est une frustration, une accumulation de frustration du fait de me dire ce qui a trait aux enfants et à la domesticité de ce lieu qu'on partage pourrait être du coup partagé, la charge mentale devait être partagée, et elle ne l'était pas. C'est-à-dire que du coup, à moi, incombait tout ce qui avait trait aux enfants à la charge mentale. Et donc, lui, il avait très certainement son côté de charge mentale pour sa propre vie et tout, mais moi, ça, je ne suis pas allée jusque-là. Je n'ai pas reproduit ce que mes générations de mères, grand-mères ou autres ont pu faire. Il y a un petit cycle qui s'est déplacé, mais je constate que le reste de la charge mentale m'incombait et que je préfère du coup me dire que c'est normal que rien ne se fasse sans moi, puisqu'il n'y a que moi. Quoi. Voilà. Sinon, c'est super énervant de se dire qu'il y a plein de choses à faire et rien ne se passe alors qu'il y a plein de monde qui est là. Donc j'espère que je me souviendrai de ça quand mes enfants seront adolescents. Pour leur dire, maintenant, on va être clairement sur une répartition et des tâches et de la charge mentale. Mais voilà, j'oublie pas. Je me fais un post-it, une to-do list, j'ai retenu les outils. Voilà, ne pas oublier ça dans 10 ans.
Tu mets un rappel sur le téléphone dans 10 ans.
Mais il y a effectivement cette différenciation, ne pas confondre, je pense, entre charge mentale et la répartition des tâches, c'est important. Et puis en plus, il y a, à partir du moment où on change la focale, si on sort du couple hétérosexuel, la charge mentale, elle veut... encore dire quelque chose. Je pense que Marin, tu aurais voulu en parler aussi au niveau du travail, quoi, par exemple.
Dans le travail, après, en fait, en pensant à ce thème de charge mentale, au début, c'est vrai que le monde du travail arrivait assez rapidement dans mes références, les termes de burn-out, etc., et de considérer et de comprendre, en fait, que oui, c'est une charge mentale au sein du travail. Quand il y a trop de choses à faire, quand on prend le soin de penser à tout pour tout le monde, etc. On peut rapidement se faire déborder et entamer, attaquer sa santé mentale et physique. Donc, moi, ça m'a, enfin, de réfléchir à cette thématique, ça a juste produit le fait que j'ai emporté le terme de charge mentale dans ma considération du travail, ce que je ne faisais pas avant. Et j'ai, à l'inverse, transféré aussi le terme de burn-out dans la sphère domestique ou familiale. Ce n'était pas un terme que j'employais ou que je percevais dans le cadre de la famille, de la gestion du quotidien. Mais non, après, sur un tout autre champ, c'était, on partageait des anecdotes tout à l'heure, des petits moments de vie où on tient, ça, on est en train d'avoir un déclic sur quelque chose. Et en l'occurrence, je vous partageais les mots d'une copaine qui était... déjà des propos qui venaient d'une autre personne pour elle, mais voilà, une sorte de transmission. Et en disant, quand on réfléchit énormément quand on traite sans le vouloir, mais c'est un état de fait, on traite des questions de genre, etc., pour soi-même, donc on a tout de suite pensé aussi ouvrir ce champ de réflexion aux personnes dont on dit qu'elles ne sont pas valides et aux personnes racisées. De dire, tiens, on a des strates supplémentaires à gérer et que ça vient s'accumuler avec le travail si on en a un, la vie de la maison si on en a une, etc. En tout cas, le quotidien. Et du coup, elle me disait, mais pour gérer certaines réflexions dans des temps de vie très particuliers, gérer son rapport au monde, à la société, il faudrait quasiment qu'on soit à mi-temps. Parce que notre cerveau, il a besoin de temps pour régler, classer des dossiers, s'organiser, effectivement. Et le burn-out et la charge mentale excessive, c'est quand on réussit à ne rien finaliser, ranger, quand on se départit de rien et que tout reste en traitement dans notre cerveau. Et forcément, ça fait surchauffe et éclatement du système. Donc c'était ça. Bon, là, c'est un peu... brouillon, comme d'habitude. Mais je pense que tu essayais de me relancer là-dessus, juste au détour d'une conversation, de s'apercevoir que réfléchir aux identités, réfléchir aux oppressions, si je vais élargir par rapport aux catégories que je citais auparavant, c'est du temps de travail pour notre cerveau et c'est du temps d'adaptation qu'on ne devrait pas forcément faire. Y a tout un chemin. Normalement commun qui doit s'opérer, mais les personnes qui gèrent ces oppressions, elles sont les seules à faire ce chemin vers les autres. Et du coup, c'est une charge mentale, c'est une charge, c'est un soin, c'est de l'hypervigilance et c'est des situations où on se rend pas compte, mais ça vient épuiser aussi toute la machine, quoi.
Et moi, ça me fait penser un peu, je reviens au début du texte de Lily, qui est, je trouve, une illustration en tout cas de ce vers quoi la charge mentale peut nous pousser, qui est que l'espace qui normalement nous permettrait de pouvoir justement faire un peu off au niveau de l'activité cérébrale, même si on a le droit de rêver, c'est la nuit. Et qu'en fait, là, on comprend, donc à la fin de cette première partie de texte, qu'en fait, tout ce dont tu étais en train de penser, c'était pas en conduisant sur le retour de je ne sais quelle activité, mais c'était la nuit pendant tes heures de sommeil, quoi. Mmh. Et je trouve que c'est... ça peut être un marqueur quand on... Tu parlais de l'application tout à l'heure, de comment savoir si on est en charge mentale. Tu parles là, Marin, de comment gérer son temps pour justement arriver à négocier avec cette charge mentale. Je trouve que déjà, se rendre compte que la nuit, on passe une partie de sa nuit à essayer d'organiser son emploi du temps, c'est un bon révélateur, en tout cas, du fait qu'on a pas mal de choses qui se bousculent, quoi, dans notre cerveau, quoi.
Oui, puis je pense que ce qui est aussi peut-être symptomatique d'une époque aussi, c'est l'accumulation, c'est ce que tu dis dans les définitions, le fait qu'il y ait des tas de dossiers d'ouverts et jamais classés, qui sont peut-être le propre d'une époque où on a une multitude d'accès. Enfin, c'est, on a un accès incroyable à une multitude d'informations. Enfin, voilà, un nombre de chaînes, de radios, de réseaux sociaux, des articles, des livres. Enfin, on est vraiment sur quelque chose de culturel extrêmement productif. Hein, on l'a dit, enfin, le nombre de séries, les films, tout foisonne, mais on est aussi sur un système qui peut broyer, je pense, au niveau professionnel avec cette idée de projet, d'appel à projet et donc d'accumulation, en fait, on n'est plus sur des employés qui ont, alors en dehors des services, faudrait que je me rappelle des cours d'économie, il y avait le secteur primaire, tertiaire et secondaire. Donc, quand on n'est pas sur une chaîne, par exemple, de production, admettons, ou peut-être que là, on a un geste répétitif qui peut conduire à un fonctionnement, c'est-à-dire à bousculer effectivement le cerveau et le rythme biologique. Mais quand on est sur un travail, par exemple, associatif, ou donc. Comment il s'appelle celui de bureau là, secondaire,
service.
Non, c'est les services, c'est le tertiaire.
Voilà, le tertiaire où on est sur une multitude d'appels à projets, de projets, donc de choses qui s'ouvrent avec des demandes, des injonctions de d'efficacité, avec des rythmes différents et donc tous ces dossiers qui sont ouverts. Je pense aussi dans l'enseignement où finalement avec la multiplicité des sujets à traiter, avec les enfants qui arrivent dans les classes avec énormément de choses aussi à gérer.
Et puis aussi en dehors du lieu de travail.
C'est-à-dire que
les profs ont aussi un travail à la maison.
Oui, parce qu'on ne fait pas que 18 heures public et puis après on a 4 mois de vacances dans l'année. Hein. Il faut corriger les copies, il faut créer les cours, il faut faire les réunions et il y en a de plus en plus. On a été convoqués quand même mercredi après-midi pour faire un stage interne au collège sur les nouveaux outils informatiques qui nous étaient proposés parce qu'ils avaient renouvelé tous les outils. On a perdu 3 heures d'une après-midi alors que pour la plupart, on savait les utiliser et que ça nous a servi à rien, quoi. Donc, y a des trucs comme ça. De plus en plus de réunionnites parce que cellules de veille, parce qu'il faut organiser ça, parce que les CA, parce que réunion pour un truc et tout ça. Donc, oui, ça, on cumule. Il y a certains collègues parce qu'ils sont représentants du CA ou coordinateurs.
Le CA, c'est le conseil d'administration.
Ouais. Donc voilà, donc tout, ben, comme toute autre boîte, en fait, un collège a un CA parce qu'il faut voter les projets, voter les budgets, voter les dotations horaires et tout ça. Donc on a besoin de représentants et donc. Ouais, on a un peu une multiplication de réunions en tout genre et c'est pas de tout repos parce qu'on sait que bon, j'ai de la chance, j'ai personne à charge, j'ai que moi à gérer, mais les collègues qui ont mari, enfant, parfois divorcé ou quoi que ce soit, donc à gérer entre la charge, pas la garde alternée et tout ça, ça peut vite devenir compliqué. Bah, peut-être, au cas je finis sur un peu moins ce que je vois comme
super.
Charge mentale et on
très
terminera
bien.
Avec la musique.
Ouais.
Que dire à part d'être un homosexuel anxieux, hypersensible, professeur dans 2 établissements différents
C'est glamour, dit comme ça.
Oui, dit comme ça, ça va très bien, mais ça va mettre les bases. On parlait tout à l'heure du validisme et tout ça, mais il y a des difficultés psychologiques, psychiques et tout ça qui se voient pas et qui vont entraîner des problèmes de charge mentale. Je prends mon exemple, hein, en tant qu'anxieux, ben, je stresse vite et je peux avoir des tendances à la déprime un peu plus rapide que d'autres personnes. Et pour éviter ça, ben, je m'occupe. Et comment je m'occupe ? Ça fait maintenant 4 ans que je suis dans l'assaut du planning familial. J'ai développé pas mal mes sports, que ce soit à la salle avec les cours collectifs ou en faisant de la pole dance. Plus ce qui peut se passer maintenant que je fais partie aussi de Micro Rebelles avec certains événements et tout ça. Donc j'ai une charge de travail entre boulot, asso, sport, détente, parce que j'aime bien aller au théâtre aussi. Donc voilà. Sauf que bah, mes semaines sont beaucoup remplies là depuis la rentrée, en fait, j'ai que mon mercredi après-midi. Mon autre demi-journée de libre, ben, je la passe la plupart du temps au planning parce qu'on a 36 000 réunions. Le sport, vu que j'ai normalement, c'est un moment où je me détends parce que ça me permet de libérer de ma journée. Ben, ça devient limite une charge où des fois j'ai pas du tout envie d'y aller. Voir de la culture, c'est bien aussi, mais pareil, ça bouffe une soirée où on aimerait peut-être se poser et puis rien faire à la maison parce qu'on a passé une dure journée, mais on a pris la place qui a coûté parfois un bras et donc on se dit ben, on va y aller quand même. Et ce qui fait qu'au final, ben, je me retrouve avec une charge mentale qui est quand même assez élevée, et ce qui fait que je suis de nouveau anxieux parce que je fais trop de choses et que je n'arrive plus à me reposer. Donc, c'est un peu un cercle vicieux. Il faut trouver un bon équilibre là-dedans et c'est pas évident. C'est beaucoup, beaucoup de réflexion sur soi, à savoir comment se gérer, qu'est-ce qui est, ben, on disait tout à l'heure, de prioriser ce qu'on veut faire.
Et éluder aussi, enfin, toute la charge de réfléchir en disant « bon, ça va m'apporter trop de stress » ou alors « ça me plairait bien, mais si éventuellement ça ne se passe pas comme j'ai prévu, hop, on anticipe les répercussions et tout. »
L'anxieux qui est en moi, exactement, ouais, c'est ça. C'est le tous les...
On va faire un club.
Alors, on a... toutes les possibilités, mais les plus noires possibles, en disant bah, ça va se passer mal, il va arriver ça. Voilà.
C'est pour ça que j'aime bien les films de zombies, les films d'horreur et tout. Ça me repose en fait. Je vois qu'il y a pire que tous les scénarios que je peux inventer.
Faudrait que je m'y mette alors.
Et Lily, tu parlais de club un peu pour rigoler, mais moi je me demandais un peu comme tout. J'ai l'impression que dans tout questionnement sur quelle solution trouver, il y a une partie de la réponse qui peut se trouver dans le collectif. C'est-à-dire que c'est un problème qui peut paraître vachement individuel, tu vois, genre comment effectivement moi avec mes problèmes personnels, psychiques ou autres, ou avec mes choix de vie d'avoir un enfant ou pas, ou avec mes choix de vie de faire tel boulot ou pas, même si des fois c'est pas vraiment des choix, enfin bref, on se dit bon bah je dois porter seul la responsabilité de ce lourd fardeau, alors que finalement bon là pour moi c'est un début de collectif déjà, le fait d'en parler, de voir ensemble bon quelles sont les réalités de chacun chacune, et puis ça revient un peu à la question que je me posais, est-ce qu'on peut trouver des allègements à ça? Bon, ça a déjà été évoqué hein, sur la question de par exemple du travail à mi-temps, qui pour moi est la base de toute façon de toute transformation sociale et qui résoudra, je sais pas si ça se dit, qui résolvera, qui résoudra en fait une bonne partie de plein de choses. Mais bon, ça veut dire aussi renverser le système capitaliste. Bon, c'est un vaste programme plus que collectif.
Mais il faut le mettre en vœu pieux, tu vois. C'est comme dans la formation Novlang que j'ai faite, où il nous apprend à bien faire les projets et bien les organiser. Et donc, tu mets toujours en haut l'objectif général et en dessous les objectifs spécifiques. Donc, il faut mettre en haut objectif général, renversement du capitalisme et du patriarcat. Bon, après, on décline en objectifs spécifiques, quoi, tu vois. Mais effectivement, je pense que moi, en tant que maman solo, par exemple, le début de la déculpabilisation, la baisse de l'angoisse, tu vois, d'anticiper toutes ces zones de stress, c'est quand on est effectivement à plusieurs, avec là, pour le coup, d'autres femmes qui sont seules avec leurs enfants et où on partage et où d'autres vont pouvoir me dire « Mais non, t'inquiète pas, ça va se gérer comme ci, comme ça. » Et puis quand on est ensemble, où la charge mentale, elle baisse, parce que comme on vit les mêmes difficultés, finalement c'est qu'avec quelques copines qui sont maman solo, avec qui je sais que je vais pas avoir besoin de dédicter tout haut toutes les choses à faire, les règles à faire, parce qu'en fait ça va se faire naturellement, on n'est pas obligé de... Il n'y a pas quelqu'un qui doit... fallait le dire, non, ça n'existe pas quand on est entre nous. Il y a ça, et je voulais, je sais pas si on a juste deux secondes, parce que...
Il reste 1 minute 30, vas-y.
Je sais pas si... Enfin, ça peut aider à mettre à plat, et puis c'est un outil moderne, alors je me suis dit, pour une fois, je vais apporter un truc moderne, moi qui suis toujours un peu has-been, hein. Et j'avais vu qu'il y avait une application, qui s'appelait Mayday, et donc de cette dame dont j'ai parlé tout à l'heure, Julie Epting. Parce que j'ai parlé de sa définition, moi j'avais pas parlé du fait qu'elle avait lancé une application qui était un peu mise en avant par la région Île-de-France pour permettre, donc du coup pour le coup en couple ou selon, hein, ça peut être une coloc ou autre et tout, de répertorier les tâches et les éléments de charge mentale pour pouvoir les quantifier et puis mieux les répartir peut-être. Donc en allant voir sur le site de l'Île-de-France, à charge mentale des femmes, une appli web pour la mesurer. Donc voilà, il y a l'application Mayday. M-A-Y-D-E-E.
Le collectif, c'est bien, mais moi, j'ai quand même mis 10 ans à me faire aider, mais médicalement, on va dire. C'est-à-dire que je me reposais beaucoup sur les amis en disant bah, j'arrive pas, donc aidez-moi ou au moins conseillez-moi. Et quand on voit que les amis ça suffit plus, c'est là où on a le déclic et il faut pas hésiter à le passer parce que ça va être dur, ça va être éprouvant, ça peut être long, mais à la fin c'est du soulagement et on peut facilement être aidé grâce à ça. Donc il faut pas hésiter non plus à demander de l'aide à des professionnels de santé s'il y a besoin.
Ouais. Surtout quand il s'agit du burn-out, on peut pas sortir du burn-out sans vraiment se poser et demander de l'aide à des psychologues ou autres.
Ou juste un repos, du coup contraint, mais un repos, des conditions de repos qui puissent au moins être là, même si ça met du temps à se poser et à réellement s'opérer. Mais,
et puis pour ne pas reprendre dans les mêmes conditions, parce qu'on peut se reposer et puis repartir dans les mêmes travers, notamment parce qu'on a dit dans la définition, il y avait aussi les objectifs, c'est la satisfaction des besoins de chacun. Moi, pose la question sur l'aspect du genre, clairement, pour dire en quoi les femmes sont peut-être plus sujettes à un surcroît de charge mentale, puisqu'on est un peu plus sujettes à s'inquiéter des besoins de chacun et pas s'arrêter à un moment pour dire bon, bah non, finalement, au travail ou autre, il y a une partie qui m'incombe et il y a les autres parties qui ne m'incombent pas. Et pouvoir le poser clairement. Chacun son taf, chacun son bordel.
Merci
et
beaucoup.
Les cochons seront bien gardés.
Exactement. Merci beaucoup Touga, merci beaucoup Mara, merci beaucoup Lily.
Merci beaucoup Flo.
Merci beaucoup.
C'est la fin de notre émission pour ce mois-ci. On se quitte avec quelqu'un que nous aimons beaucoup, Anne Sylvestre. Et on se dit au mois prochain.
On l'a dit à la grand-mère, qui l'a dit à son voisin, le voisin à la bouchère à son gamin qui, tête folle, n'a rien eu de plus urgent que de le dire à l'école, à son voisin Pierre-Jean. Clémence, Clémence a pris des vacances, Clémence ne fait plus rien. Clémence, Clémence, comment on enfonce? Clément, ça va bien. Ça sembla d'abord étrange, on s'interrogea un peu sur ce qui parfois dérange la raison de certains vieux. Si quelques mauvaises chutes avaient pu l'handicaper, ou encore une dispute avec ce brave Honoré. Clémence, Clémence a pris des vacances, Clémence ne fait plus rien. Clémence, Clémence, comment on enfonce? Clémence va bien. Puis on apprit par son gendre qu'il ne s'était rien passé, mais simplement qu'à l'entendre, elle en avait fait assez. Bien qu'ayant toutes ses jambes, elle reste en son fauteuil, un peu de malice flambe parfois au bord de son œil. Clémence, Clémence a pris des vacances, Clémence ne fait plus rien. Clémence, Clémence, comment Clémence va bien. Honoré, c'est bien dommage, doit tout faire à la maison, la cuisine et le ménage, le linge et les commissions. Quand il essaie de lui dire de coudre un bouton perdu, elle répond dans un sourire, va, j'ai bien assez cousu. Clémence, Clémence a pris des vacances, Clémence ne fait plus rien. Clémence, Clémence, comment on enfonce? Clémence va bien. C'est la maîtresse d'école qui l'a dit au pharmacien. Clémence est devenue folle, paraît qu'elle ne fait plus rien. Mais selon l'apothicaire, dans l'histoire le plus fort n'est pas qu'elle ne veuille rien faire, mais n'en ait aucun remords. Clémence, Clémence a pris des vacances, Clémence ne fait plus rien. Clémence, Clémence, comment on enfonce? Clémence va bien. Je suis de bon voisinage, on me salue couramment. Loin de moi l'idée peu sage d'inquiéter les braves gens. Mais les grands-mères commencent de rire et parler tout bas. La maladie de Clémence pourrait bien s'étendre là. Toutes les Clémences prendraient des vacances. Elles ne feraient plus rien. Toutes les Clémences comme en enfance. Elles seraient bien. Toutes les Clémences prendraient des vacances.
Le gang des histoires.
Le gang. Pouf. Bim.